Stephen King aime les cartes au trésor, Stephen King aime le 4 quarts, Stephen King a écrit le 5e quart et Rob Bowman l'a adapté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris. Salut, ça va ?
Salut, ça va. Écoute, comme quelqu'un qui est enfin en vacances, donc ça va.
Ah, cool. Effectivement, on profite.
Oui.
Tandis que moi, c'est l'inverse, ça va reprendre, là.
C'est prévu.
Boulot de con. Nous allons parler d'une nouvelle qui est dans le recueil Rêve et Cauchemar. La nouvelle s'appelle Le 5e quart. Elle est assez courte, elle fait une vingtaine de pages.
Ouais.
Et son adaptation dans la série Rêve et Cauchemar également. Pour le coup, le titre français, c'est Quatuor à 5. Le titre anglais, dans un cas comme dans l'autre, c'est The Fifth Quarter. Donc nous allons spoiler la nouvelle comme l'épisode, qui fait une quarantaine de minutes. Après, voilà, on est sur quelque chose de très court. Je propose qu'on y aille tout de suite.
Eh ben, allons-y.
Alors, la nouvelle nous raconte l'histoire d'un homme sorti de prison depuis pas très longtemps qui se rend chez un criminel parce que ce criminel s'est associé à un ami de cellule, à un compagnon de cellule du héros. Ils ont fait un coup ensemble, puis ils ont trahi le compagnon de cellule et ils l'ont tué. Et donc le héros vient se venger et accessoirement récupérer des bouts de cartes au trésor qui ont été coupés en plusieurs morceaux pour récupérer le magot. Voilà, il se passe pas grand chose de plus. C'est une nouvelle qui a été publiée en avril 72 dans Cavalier, donc c'est un magazine dans lequel King a publié un bon paquet d'histoires en début de carrière. Mais c'est la seule nouvelle qu'il a publiée sous un pseudonyme qui ne soit pas Richard Bachman, puisqu'il l'a publiée sous le nom de John Swisen. L'idée, c'était qu'apparemment le staff de Cavalier considérait que, vu que c'était une nouvelle là plus policière thriller que horrifique, il fallait pas la signer sous le nom de King pour éviter une association avec le nom sur le genre horrifique. Donc King a trouvé ce pseudonyme qui n'a été utilisé qu'une seule fois, et après, quand elle a été recueillie, ça a été évidemment sous son vrai nom. On peut imaginer que si ça avait été publié plusieurs années plus tard, il aurait utilisé le pseudonyme Bachman pour cette nouvelle, parce que c'est totalement le ton d'un récit de Bachman.
Ouais.
D'ailleurs, il le dit, c'est la seule chose même qu'ils disent dans les notes au sujet de Rêve et Cauchemar au sujet de cette nouvelle, c'est que c'est du Bachman, quoi. La version audio de la nouvelle est lue par Gary Sinise, qu'on a déjà vu dans Le Fléau et La Ligne Verte. Voilà, je le signale juste pour l'anecdote. Et on va pouvoir passer à nos avis, parce que j'ai vraiment rien d'autre dessus.
Ah oui, très très peu d'informations.
Ah oui, là.
Bah écoute, c'est pas une lecture désagréable, ça se lit. Le problème, c'est que je l'ai lu hier et que je pense que demain, je l'aurais totalement oublié. Il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé, en début de nouvelle et en fin de nouvelle, c'est que t'as l'impression de prendre le train en marche. C'est comme si en fait tu lançais un film sur le dernier tiers du film, et que au bout d'un moment, tu coupais avant la fin du film.
Oui.
C'est totalement l'impression que j'ai eue. Parce que tu commences, t'es directement dans l'action avec le personnage qui attend les deux autres pour les braquer et voler leur morceau de carte. S'ensuit les pérégrinations qui s'ensuit fatalement, il en bute, après il y a le grand méchant qui débarque, il le bute, il prend son morceau de carte, et il s'en va, et tu sais pas la conclusion non plus. Voilà. C'est très étrange. Je sais pas ce que King a voulu faire vraiment en choisant cette façon de raconter l'histoire, mais c'est très très perturbant, quoi.
Je pense que c'est une histoire de longueur, on lui avait autorisé qu'une vingtaine de pages et il a fait ça, mais effectivement, on dirait un fragment isolé d'un ensemble plus vaste.
C'est ça.
Et d'un ensemble très classique au final.
Avec très
oui, c'est
peu
pas
de
mauvais, mais je trouve que ça a vraiment pas d'intérêt.
Oui, voilà. Beaucoup
comme nouvelle.
C'est un manque de construction de personnages, y a que dalle. La grande menace, on te la vend en mode ah, il faut vraiment pas que tu te mêles des affaires de ce type-là, tu vas voir, il va t'en faire voir, et puis le mec au final trébuche et il finit par se prendre une balle dans la tête.
Ouais. Tu meurs vraiment comme une merde. Ouais.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est ça la grande menace qu'on nous a avancée plutôt tôt dans la nouvelle, en plus. Hein. Genre, au bout de 6 pages, on nous parle de lui, quoi. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Remboursez-moi. Mm-hmm. Remboursez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est pas une nouvelle extraordinaire. C'est clairement pas le plus mauvais qu'on ait lu de King. Mais en fait, c'est tellement insignifiant que c'est difficile de s'en faire un avis.
Oui,
c'est ça,
en fait, même les trucs mauvais, ils avaient des choses plus marquantes, je trouve.
Bah oui, c'est ça. Alors que là, c'est tellement...
Là, c'est le truc le plus anonyme qu'on ait lu, je pense, pour le coup, depuis le début.
T'en as vraiment ouais. Rien à foutre de ce qui se passe, quoi. Alors que pourtant, les dialogues sont pas trop mal écrits. Tu vois, il y a quelque chose, mais c'est pas suffisant.
Non, c'est bien construit, mais c'est bien construit à la manière de tous ces livres que King aime beaucoup, d'ailleurs, des années 60-70, les policiers à la George Stark. Non, c'est pas George.
Richard.
Enfin, Richard Stark. George Stark, c'est dans La Part des Ténèbres.
Oui.
Ça fait comme tous ces trucs policiers, sauf que comme c'est qu'une nouvelle de 20 pages, au final, on n'a même pas un roman sur lequel on ait pas mal de rebondissements,
et voilà.
Pas mal de suspense.
Parce que le pitch dit comme ça, ça peut faire roman policier de gare sympathique ouais. À lire, quoi. Mais t'as même pas ça, en fait, au final.
Puis en 20 pages, j'ai même pas la place de mettre les scènes de cul réglementaires. C'est honteux.
C'est ça, en fait. Ça fait très... Tu pourrais, en fait, voir ce genre de dialogue... Pour comparer avec des auteurs d'aujourd'hui, tu pourrais avoir ce genre de dialogue dans du Harlan Coben ou dans du Robert Cray, quoi.
Ouais.
C'est vraiment c'est pas des mauvais auteurs. Ils font du roman policier de gare, quoi. C'est du pur divertissement. Ça cherche pas à faire autre chose que du divertissement, mais ça le fait plutôt bien.
Ouais.
Voilà. Moi, le seul problème que j'ai après avec ce genre d'auteur, c'est qu'en général, t'as lu un ou deux romans, bon, bah c'est bon, t'as fait le tour de leurs œuvres. Que ça a du mal à se renouveler, mais bon.
Oui, ça c'est vrai aussi d'auteurs de policiers célèbres, hein.
Oui.
Simenon, ou dans une moindre mesure, mais un peu quand même Agatha Christie, t'as quand même très vite fait le tour, je trouve.
Même Ickes Clarke, hein.
Ouais, mais ça j'en ai eu qu'un d'elle, donc je peux pas...
J'ai lu du renard. Hein.
Non, même pas un truc du style femme à marier...
D'accord.
Je sais même plus le titre, tu vois, tellement ça m'a marqué.
Mais bon... C'est la même mécanique, quoi.
Ouais.
En général, t'en as lu un, tu les as tous lus, c'est pas mauvais, ça se lit bien, c'est des auteurs qui arrivent à t'en sortir un tous les ans, bon voilà, histoire d'être là dans le top quand ça sort.
Si ce n'est plus, pour certains.
Si ce n'est plus, ouais, c'est vrai, pour certains.
Higgins Clark, je crois qu'elle a été bien productive.
Ouais, à un moment, ouais.
Moins depuis qu'elle est morte, mais...
Fatalement, c'est ouais. Bizarre, ouais. Ces gens qui
c'est
souffrent.
Ça.
C'est étrange comme maladie.
Yeah, ça arrive à beaucoup d'artistes.
Au bout d'un moment, oui, ben voilà, ben. C'est triste quand ça les touche à un âge un peu trop jeune, mais... C'était la parenthèse roman policier qu'on aime bien, mais que quand même, quoi.
Ah, c'est vrai que je trouve qu'il y a des auteurs de romans policiers de gare qui arrivent mieux à se renouveler. On a régulièrement, je crois, ici, parlé de Brussolo.
Brussolo.
Il y a des trucs qui reviennent dans chacun de ses romans, il y en a des moins bons que d'autres, mais je trouve qu'il y a quand même une vraie capacité de renouvellement...
Solo, Michael Connolly, que j'aime beaucoup ouais. Aussi. Ça, je crois que tu n'en as jamais lu. Toi.
Non, mais effectivement, tu m'en as déjà parlé.
Qui est très très bon.
J'ai déjà lu du mien.
Donc oui, il y en a plein. Hein. Mm-hmm. Très bons auteurs policiers qui arrivent à se renouveler, heureusement. Sinon, ce serait triste.
Ouais. Mais ouais, voilà, bah, pas grand-chose à dire de cette nouvelle, à part que... Ouais, ça n'a pas vraiment d'intérêt au final.
Bah voilà, c'est malheureux. Je pense qu'on a même déjà
ouais,
fait le tour en
ouais,
fait.
C'est ça,
qui est
on va déjà pouvoir passer à l'adaptation.
Parce qu'en même temps, ça dure
voilà.
Que 20 pages, donc c'est
ça.
Compliqué quoi.
En plus, c'est ça.
Ça dure que 20 pages, c'est que du dialogue, donc ça va extrêmement vite à lire. Donc,
ah oui, ça, au moins vous y passerez pas longtemps.
Ah
oui.
Non, c'est clair.
Ça va.
On peut passer à la suite, je pense.
Allez, c'est parti pour l'adaptation. « L'adaptation fait donc partie de la mini-série Rêve et cauchemar en 8 épisodes, dont on a déjà parlé pour la première fois à l'occasion de la dernière affaire Domnay. Donc toute l'équipe de production qui est derrière, et en fait pas mal de noms, était déjà impliquée, surtout sur la dernière affaire Domnay. Il y a moins de noms en commun avec quand l'autovirus met cap au nord. Mais donc là aussi ça va aller vite parce que je vais pas revenir sur tout le monde. Déjà le réalisateur c'est Rob Bowman, comme sur Omné. Je crois qu'il a réalisé que 2 épisodes donc lui on le verra plus. Et par contre en relisant mes notes pour Omné, je me suis rendu compte que j'avais laissé passer quelque chose au sujet de ce réalisateur.
Ah.
C'est qu'il a fait quelques films pour le cinéma et il a fait Elektra.
Ah.
Donc voilà, on ne pardonne pas ça hein, Rob.
Ah non non, ça on ne pourra jamais le pardonner.
En plus je l'ai revu il y a pas si longtemps grâce à une amie. Grâce. Et ouais, non, c'est quand même chaud, Elektra.
C'est catastrophique, hein, je pense. Ouais. Je pense quand même que c'est même pire que le film Daredevil.
C'est pire que Daredevil, ouais. J'irais pas jusqu'à dire que c'est pire que Thor 4, mais c'est pire que Daredevil.
Oh, putain. C'est vrai que, mine de rien, Daredevil a pour lui Duncan... c'est Duncan comment, Jones, je sais plus comment il s'appelle.
Qui joue... Oui, Duncan Jones qui joue
le Kaïd.
Oui.
Donc au moins Daredevil a ça pour lui.
Ouais. C'est dommage, hein, parce que Ben Affleck, ça peut être un bon acteur, hein, ça,
oui,
dans un bon contexte. À voir si un jour on a un bon film Daredevil, j'y crois pas trop avec son arrivée dans le MCU, mais...
Ouais, à mon avis, il restera à la télévision. On le verra, mais en caméo dans les films, quoi.
Ah non, je crois qu'ils ont prévu de faire un film sur lui, hein.
Ah ouais ?
Ouais. Ce que j'ai peur, c'est que ça devienne un gros blockbuster d'action identique aux autres et que ça cherche pas à profiter des,
oui,
des particularités de Daredevil. Moi.
Avec une ambiance lolilol. Comme on a un peu trop l'habitude de le voir chez Disney.
Ouais, et puis un peu trop grand spectacle, peut-être. Enfin bon, on verra bien.
Le problème de... Pour digression MCU, comme très souvent en plus. Le problème, c'est qu'à force de foutre de l'humour partout, c'est que tous tes produits se ressemblent.
Oui, bah c'est ça. Hein.
Voilà. Et que bah, quand une série, normalement de base, est faite pour accueillir de l'humour, bah tu te dis, ouais, bah en fait ça ressemble à tous les autres. Quoi.
Oui, il n'y a plus du tout de contraste.
C'est ça.
C'est vraiment dommage. Le scénariste de l'épisode, c'est Alan Sharp. C'est le seul scénario qu'il ait fait sur la série et c'est plutôt un vétéran à l'époque. Il était actif dès les années 60 à la télévision et il est décédé en 2013 à un âge plutôt raisonnable. Donc, ouais, il était vieux.
D'accord.
Déjà en faisant ce scénario. Alors, ses autres scénarios, il y a quelques films avec des castings un peu prestigieux mais que je ne connais pas. Il y a Rob Roy, qui est un film avec Liam Neeson, Tim Ross et John Hurt. Dead Spanley et La Fugue. La Fugue, c'est un film de Arthur Penn avec Gene Hackman. Là, je crois que je connais le titre. Mais pareil, j'ai jamais vu. Bon, voilà.
D'accord, donc je n'ai pas vu non plus.
Il y a pas mal de choses qui sont ajoutées à la nouvelle de base. Bah, comme on l'a dit, elle fait que 20 pages, donc il faut bien broder un peu, notamment toute la famille du héros, Billy, dans le téléfilm. Il y a toute une relation à sa famille qui est ajoutée, tout simplement pour atteindre les 43 minutes réglementaires de la série. Le protagoniste est interprété par Jeremy Sisto, qui est un acteur récurrent de Six Feet Under.
D'accord, une série que je n'ai pas vue, qui a très bonne réputation.
Oui, pour le coup, Six Feet Under, je l'ai vu, et c'est vraiment très très bien.
Oh, donc une série qui ça m'a vu, il faut le noter.
Et il est dans plusieurs autres séries, mais dans des rôles un peu plus secondaires. Il fait des voix, alors il a fait une voix régulière apparemment dans American Dad et dans La Famille de la Jungle, mais là pour le coup c'est deux dessins animés que j'ai très très peu regardé.
D'accord, j'ai vu American Dad, mais on a dû voir en VF.
Ouais, j'ai pas adhéré moi à American Dad.
Ah, il faut aimer l'humour Seth MacFarlane quoi.
Ouais, ce qui est pas trop ma cam.
Voilà, il faut aimer ça. L'humour... Le problème avec cette McFarlane, c'est qu'une fois que t'as vu les Griffins, t'as vu tous ces shows. Quoi.
Les Griffins, ça peut me faire rire. Pour le coup, les parodies de Star Wars des Griffins, je les trouve vraiment fun.
Ouais. Mais c'est toujours les mêmes mécaniques, quoi. La famille identique quasiment dans toutes les séries. Normalement, c'est... Mais oui, je trouve les Griffins clairement beaucoup plus drôles que American Dad.
Je trouve Ted un peu rigolo.
J'ai pas vu. J'ai ni vu le premier ni le deuxième, Ted.
Le 2, je l'ai pas vu. Mais le premier, il y a des trucs qui me font rire.
McFarlane, il est que à la... scénarisation.
Non, je crois qu'il est réel aussi sur TED.
Ouais.
Et il a fait aussi la voix, alors là ça va probablement te parler, de l'Ergo dans sa deux titres, Batman vs Robin ou Batman et la conspiration des hiboux. J'imagine que c'est une adaptation de la cour des hiboux, non?
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est bien ou...
J'ai pas vu cette adaptation en animé, mais l'arc, l'arc la cour des hiboux en comics, c'est vraiment très bien, quoi.
Ouais, il va falloir que je me le prenne maintenant qu'il est dans Nomad.
Dans la collection Nomad d'Urban Comics.
Ouais, c'est un des prochains à prendre.
C'est l'un des premiers runs de Zack Snyder, aucun lien.
Scott Snyder.
Scott Snyder, ouais. Aucun lien quand même.
Ouais.
C'est l'un de ses premiers arcs après avoir pris la main sur Batman en tant que scénariste. C'est vraiment très bien.
Toi, je crois que c'est l'arc que tu trouves le meilleur de Snyder, non?
Avec En Zéro qu'il a fait donc juste après.
Oui.
J'ai bien aimé après.
En Zéro qui a été publié pour le coup dans la collection Batman à 5 euros, c'est ça?
C'est ça. Et dont le scénario a pas mal inspiré Reeve pour son film The Batman.
D'accord.
Christopher Reeve. Non, Christopher Reeve, qu'est-ce que je raconte?
Non.
Matt Reeve.
Ouais. Oh là. Christopher Reeve, c'est un autre super-héros.
Oui. Ça devient compliqué, Ça devient compliqué tous ces noms. Arrêtez d'avoir
tant
les
qu'on
noms.
Est dans les super-héros, et vu qu'on n'en est pas à une digression pré-crypto, c'est très bien.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est la seule fois que vous m'entendrez dire du bien d'un truc avec un chien en héros.
Il y a même deux chiens en plus dedans.
Ouais.
mais oui, et après ça, après le run En Zéro, il a... En fait, mon problème avec Snyder, c'est bien, on va combler avec des anecdotes autres cinéma, séries et comics. Mon problème avec Snyder, c'est que il a ce complexe de j'ai envie de réécrire des grands arcs qui ont déjà été écrits. Bah, typiquement, il y a eu Year One, lui il a fait Year Zero. Mm. Tu dis, est-ce que t'es obligé de réécrire? Et lui, il a fait sa version de Un deuil dans la famille, qui à la base est un arc important puisque c'est la mort du tout premier. Non, pas la mort du tout premier, la mort du second Robin.
Ouais, lui, c'est celui qui est tué par le Joker. Hein,
voilà.
C'est ça, ouais.
Lui a fait sa version de Un deuil dans la famille et son arc s'appelle Un deuil dans la famille. Voilà, le mec, vraiment,
et du coup, il fait mourir qui
Après, c'est un arc récent, donc est-ce qu'on spoil?
Ah oui, non.
Enfin, récent, c'est un arc qui date quand même des années 2000. Donc, c'est quand même relativement récent, c'est encore publié des fois dans des nouvelles éditions, donc on va pas spoiler.
D'accord, ouais.
Mais la fin est plutôt décevante. En fait, à partir de Un deuil dans la famille, son problème, c'est qu'il a de très très bonnes idées, mais que je trouve ses fins d'arc assez brouillonnes à chaque fois.
Mm.
C'est le mec qui a des très bonnes idées sur le papier, mais il sait pas comment les conclure, c'est un peu le souci.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage.
Mais la cour des hiboux, par contre, c'est très bien.
Bon, du coup, pour revenir à Jeremy Sisto, c'est finalement un second couteau, mais qui travaille de manière plutôt régulière. Sa femme, elle est jouée par Samantha Matisse, qui jouait déjà Suzanne dans l'adaptation de Salem de 2004, donc celle dont on a déjà parlé il y a longtemps maintenant.
Oui, d'accord, de Garris.
Non, c'est pas Garris.
Ah,
c'est
Salomon.
Michael Salomon, ouais, c'est ça. Ouais.
En même temps, c'est toujours les deux mêmes, donc.
Oh, il en a fait que deux, Salomon, c'est juste qu'on les a faites les deux, mais. Et elle est dans plusieurs séries comme The Strain et Under the Dome. Donc si on fait Under the Dome un jour, on la reverra.
Très bien, The Strain. C'est aussi l'occasion de le dire.
Ouais, je l'ai toujours pas vu, mais bon, vu que c'est Del Toro, c'est un des trucs qui peut me tenter. Et
puis c'est pas si long que ça, c'est 4 saisons, je crois, seulement.
Ouais. Barney, il est joué par Christopher Morris, qui jouait aussi un rôle secondaire dans Salem, mais vraiment secondaire. Il jouait Mike, c'est un des habitants de la ville. Mm-hmm. Et globalement, c'est ça, sa carrière, des seconds rôles à la télé. Et c'est un peu pareil pour le trio d'antagonistes. Il y a Christopher Kirby, qui joue Mauser dans les Matrix 2 et 3.
D'accord.
C'est un des pilotes de Sion. Robert Mamon, et c'est rigolo parce qu'il joue Hack dans les deux mêmes Matrix. Donc il y a deux acteurs de Matrix Reloaded et Revolutions.
D'accord.
Et Peter O'Brien, acteur régulier de la série Les Voisins, qui est une sitcom, enfin pas une sitcom, mais qui est une des séries façon Les Feux de l'Amour, dans laquelle il a joué de 85 à 87, et il est revenu, j'imagine, pour le final de la série cette année, parce qu'elle s'est arrêtée après quelques 8500 épisodes.
Ah oui, quand même.
Ouais. RT, c'était triste. Le directeur photo, c'est le même que sur Omné, c'est John Stocks. Je trouve que cette réalisation hyper nerveuse, avec une caméra qui bouge beaucoup, surtout au début, c'est trop, même au début, on y reviendra.
Avec apparemment des zooms.
La photographie un peu agressive, c'est ce type de photo de photographie et de manière de diriger qui commençait à être à la mode à l'époque, j'ai l'impression.
Ouais, qui fait un petit peu simili-documentaire.
Ouais. Le production designer, c'est Otello Stolfo, qui était aussi sur la dernière affaire d'Omné, Et le compositeur, c'est Jeff Beal qui a fait toute la série, et je trouve que c'est pas sa meilleure partition, elle est assez anonyme, vraiment pas ouf sur cet épisode-là.
Ouais, moi j'aime bien la petite musique qui est à la toute fin, quand le trésor est découvert, c'est tout.
Ouais.
Une petite musique aventureuse, très sympathique. Sinon, effectivement, ça n'a pas marché. C'est le seul moment où je me suis dit, tiens, la musique est sympa. Mmh.
L'épisode est plutôt pas mal reçu, il y en a pas mal qui signalent qu'il est bien joué et bien rythmé, avec une dimension intimiste réussie, selon certains.
Intimiste ?
Ouais, j'ai pas compris non plus.
Ah bon ?
La qualité de la fin est discutée par d'autres, disant qu'elle est un peu improbable, quand même, hein, par rapport au reste, la toute fin.
Karen, des serviettes !
Salut, Willy. Content que tu sois sorti.
Ouais. Fais-moi voir. Laisse-moi regarder.
Oui.
Joli.
Oui. Ça va.
Arnaud, laisse-moi voir.
Oui, ça va, il faut que je te parle.
Quoi ?
Salut, Karen.
Salut, Barney.
Va voir si Jackson dort. Va, ça va aller. Quoi ? Hein ?
Capi McFarland est venu me voir. Tu te souviens de lui ?
Oui.
Il m'a proposé un coup.
Tu croyais qu'on devait arrêter tout ça, Barney ? T'as oublié ou quoi ?
Attends, écoute. C'était pas de la petite bière. 3,5 millions, tu m'entends ? 3,5 millions à partager en 4. C'est mieux qu'être serveur au parc, non ?
D'accord, laisse-moi voir ça.
Oh merde.
Il faut qu'on appelle les urgences.
Oh, non. Pas de flic, Willy. Je retournerai pas en tôle.
Willy, il est salement atteint. Je vais chercher une autre serviette.
Et donc on va pouvoir en parler. Je t'écoute.
En fait, c'est comme la nouvelle, c'est-à-dire l'épisode est sympathique, mais ça va être vite oubliable. Après, oui, effectivement, on peut saluer le fait que ça se contente pas de faire du copier-coller et qu'au moins ça développe un peu plus. Je serais d'accord pour dire que le rythme de l'épisode est bon. Ça passe plutôt bien, il n'y a pas vraiment de moment où on se fait chier. C'est juste qu'en fait, tout est tellement anecdotique et déjà vu. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à ce qu'on est en train de visionner, quoi. Moi, c'est ce que je me suis dit après l'épisode, quoi.
C'est vrai que moi, je me suis un peu ennuyé pour Sous. Ça avait du mal à m'emporter, tu vois, à m'activer.
Ouais.
C'est pas mal fait, mais... ça m'a rappelé toutes ces séries un peu insipides du dimanche après-midi.
Avec une histoire ultra ramassée en 43 minutes.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais.
Et des scènes qui quand même durent un peu longtemps. La discussion avec son pote mourant, je trouve qu'elle dure trop longtemps.
Ah oui. Elle dure trois plombes alors que le mec est en train de crever, quoi.
Ouais.
Et pardonne-moi.
On dirait un truc de cinéma indien. Les gens mettent 10 heures à mourir.
Tu t'attends moi presque à ce que la femme s'en revienne en chantant et en dansant. Ça aurait pu être rigolo. Non mais voilà, c'est comme la nouvelle, c'est anecdotique, mais au moins c'est anecdotique un peu plus développé, quand même mieux fait que la nouvelle, quoi.
Ouais.
Alors je trouve ça quand même supérieur. Après, la nouvelle a pour elle que du coup ça dure que 20 pages, donc en 10 minutes c'est plié.
Ouais. Moi je savais que je vais pas trouver qu'il y ait une différence qualitative majeure entre les deux. Hein. Puis en effet, la fin avec la carte au trésor qui amène dans un parc d'attractions.
La parc d'attractions où la nana travaille.
Ouais.
Genre oui, ça c'est un peu gros.
C'est quand même pas mal débile.
C'est un peu gros, genre personne n'a grillé avant. Personne ne les a surpris. Il n'y a pas de caméra de sécurité dans votre parc.
Oui, et puis il doit bien y avoir du nettoyage du parc, des attractions, donc quelqu'un qui tombe dessus. Enfin, c'est risqué quand même.
Ah oui, c'est
comme endroit
risqué,
pour
oui.
Planquer un trésor.
C'est très très risqué, oui. On est d'accord. Non, c'est. Voilà, pour moi c'est anecdotique, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas moyen, c'est pas bien.
Mm-hmm.
C'est. Ouais, voilà, bah, je l'ai vu. Je l'ai vu et puis est-ce que je le reverrai ? Bah non. C'est marrant de se dire que du coup c'est par quasiment l'entièreté de l'équipe technique de l'affaire Dunney qui est vraiment beaucoup plus maîtrisée, quoi.
Oui, bah ne serait-ce que parce que le scénario est quand même supérieur dans Amnet.
Oui, et dans Amnet, le scénario fait qu'ils ont dû se sortir les doigts en termes de décor, d'ambiance et tout.
Oui.
Parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. La qualité d'image n'est pas folle, enfin visuellement c'est pas fou, la lumière est pas... extraordinaire.
Elle tente un truc, la lumière au moins. Pour le coup, je pense que c'était un type de photo qui n'était pas encore ultra fréquent à l'époque. Mais effectivement, je trouve pas ça ouf.
Bah voilà. Voilà.
C'est... C'est vrai que moi, vraiment, j'ai pas passé un très bon moment devant. Ça a eu du mal à ne serait-ce que retenir mon attention.
D'accord. Moi, je te dis, je l'ai regardé, c'était supportable, mais c'est tout. Donc, j'ai peut-être passé un meilleur moment que toi, mais pas
supportable,
non plus.
Je le place pas dans les pires. Hein, c'est, voilà. C'est pas du Mangler Reborn.
Rien ne sera comme Mangler Reborn.
Hélas. J'ai envie de dire.
Non, mais voilà, j'ai peut-être passé un meilleur moment que toi, mais pas un meilleur moment x10, quoi.
Ouais.
Tu vois ?
Oui, je te comprends.
Mon meilleur moment, il devait être plus un ou deux points de plus que toi, c'est tout.
Après, c'est pas mal joué. Pour le coup, on peut reconnaître que c'est...
Le casting
fait le taf, ouais.
Le grand méchant, c'est aussi ridicule que dans la nouvelle.
Ouais.
Si ce n'est plus, parce que là, en fait, dans la nouvelle, tu comprends qu'en fait, c'est juste l'autre. Bah, il est mort, donc il commence à se raidir. Et du coup, l'autre, en cognant sa jambe, bah, il tombe, parce que la raideur cadavérique fait que il est dur, vu qu'il est mort. Mmh. Alors que l'autre, tu vois qu'il n'est pas tout à fait mort, il commence à se réveiller un peu, puis il bouge genre en mode... Genre comme si tu dormais la nuit, que t'as fait un cauchemar, mais du coup tu te mets sur le côté pour te rendormir. Mmh. Et du coup l'autre se cogne. Et c'est con, parce qu'il est en train de faire un décompte un petit peu, genre qu'il se veut flippant avec une grosse voix. Et puis bah non, en fait c'est raté. C'est tout aussi ridicule, si ce n'est plus même pour le coup.
Ouais, quand tu le vois, oui, je trouve que ça, tu te rends encore mieux compte que finalement c'est un peu minable.
Du ridicule de la situation.
Ouais.
Voilà. Et je pense qu'on a tout dit déjà.
Ouais, voilà, c'est très rapide, mais c'est vide, donc voilà, on va tout de suite passer à un petit extrait.
C'est ça. Bah, on vous a fait un gros épisode la semaine dernière. Ah non, même pas, la semaine dernière, c'était pas Misery.
Non, c'était Misery, le dernier gros, ouais.
Ouais, mais Vengeance Diabolique, c'était pas non plus un épisode de 30 minutes, ça.
Non, ça va, c'est pas un des plus courts. On peut se permettre. Allez, c'est parti pour l'extrait. Nice to meet you! Hope you get my name! Yeah. Très bien, donc l'extrait qu'on a choisi, c'est quasiment la fin de la nouvelle et de l'adaptation. On vous a dit que la mort du grand méchant était assez ridicule, et vous allez voir... qu'on ne ment pas.
C'est ce qu'on va vous lire, parce que... Nous en sommes à l'édition Rêve et Cauchemar, le livre de poche, encore et toujours traduit par Willem Olivier Desmond, l'habituel traducteur du King en France depuis maintenant un petit moment. Mm. Et du coup, nous en sommes à la page 811, parce que c'est quand même un bon gros bébé, Rêve et Cauchemar. Le sarge n'eut le temps de prononcer qu'un seul mot. Jagger. Je ne sais pas qui l'a eu le premier. Une arme de poing de gros calibre fit feu derrière la torche et j'appuyai deux fois sur la détente du 45. Un pur réflexe. Le sarge se trouva propulsé avec une telle force contre le mur qu'il en perdit l'une de ses bottes. La lampe torche s'éteignit. Je tirai dans la fenêtre, mais seul du verre en dégringola. Je restai étendu sur le côté, dans l'obscurité, et compris que je n'avais pas été le seul à attendre les manifestations de la capacité de Kiman. Jagger, lui aussi, avait patienté. Mais s'il me restait bien 12 cartouches dans la voiture, je n'en avais plus qu'une dans l'arme. « Il vaut mieux pas faire le con avec Jagger, mon pote, » avait dit Sarge. « Il ne fera qu'une bouchée de toi. » J'avais maintenant une assez bonne idée de la disposition de la pièce. Je m'accroupis et bondis par-dessus les jambes étalées de Sarge pour aller me réfugier dans le coin où je me glissais dans la baignoire. Je me mis en observation par-dessus le rebord. Il n'y avait pas le moindre bruit. L'émail écaillé et usé rendait le fond abrasif. J'attendis. 5 minutes passèrent environ, elles me parurent durer 5 siècles. Puis le faisceau lumineux se ralluma à travers la fenêtre de la chambre, cette fois-ci. Je me dissimulai lorsqu'il passa par la porte, il zigzaga brièvement et s'éteignit. Le silence se prolongea, assourdissant. Je vis tout défiler sur l'émail usé de la baignoire. Le sourire désespéré de Kiman, Barney avec son trou dans le ventre encroûté de sang séché à l'est de son nombril, Sarge, pétrifié dans le faisceau de la torche, tenant son rasoir en professionnel entre le pouce et l'index. Jagger, l'ombre sans visage, et moi, le cinquième quart. Soudain, une voix s'éleva, juste de l'autre côté de la porte. Une voix douce, cultivée, presque féminine, mais nullement hésitante. On y sentait la compétence, une menace mortelle. « Hé, mon mignon !» Je gardais le silence. J'allais laisser sonner un bon moment avant de décrocher. Lorsque la voix s'éleva de nouveau, elle venait de la fenêtre. « Je vais te tuer, mon mignon !»« C'était eux que j'étais venu descendre, mais tu feras l'affaire !» Nouveau silence, pendant lequel il changea de position.
Cette fois-ci, ce fut de la fenêtre juste au-dessus de la baignoire et de ma tête que me parvint la voix. Je sentis mes entailles me remonter jusque dans la gorge. Si jamais il allumait sa torche... « On n'avait pas besoin d'une cinquième roue au carrosse !» dit Jagger. « Désolé !» C'est à peine si je l'entendis rejoindre sa nouvelle position, juste derrière l'entrée. « J'ai mon morceau de carte sur moi. T'as pas envie de venir le prendre ?» Je dus réprimer une forte envie de tousser. « Viens donc le chercher, mon mignon » continua-t-il d'un ton moqueur. « Le dernier quart du gâteau. Viens donc te servir !» Mais je n'en avais pas besoin, et il devait s'en douter. J'avais pratiquement tous les atouts en main. Je pouvais trouver l'argent. Avec son unique morceau, Jagger n'avait aucune chance. Cette fois-ci, le silence se prolongea vraiment. Une demi-heure, une heure, ça n'en finissait pas. L'éternité au carré. Je commençais à m'ankyloser. Dehors, le vent s'est élevé, m'empêchant d'entendre quoi que ce soit, sinon les rafales chargées de neige qui venaient fouetter les murs. Il faisait très froid, l'engourdissement gagnait le bout de mes doigts. Puis, vers 1h30, il y eut un bruit étrange, comme si des rats furetaient dans les ténèbres. Je retins ma respiration. Jagger avait réussi à entrer. Il était au beau milieu de la pièce. Puis je compris. La rigor mortis, rendue plus rapide par le froid, redisposait le cadavre de Sarge une dernière fois. C'était tout. Je me détendis un peu. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit brutalement et que Jagger chargea, fantomatique mais visible dans son manteau de neige, grand et dégingandé. Je le laissai avancer et lui logeai une balle dans le côté de la tête. Mais dans le bref éclair de la détonation, je vis que j'avais fait un trou dans un épouvantail sans visage, habillé de vêtements abandonnés par un paysan. La tête en grosse toile dégringola de son manche à balai et roula sur le sol. Déjà, Jagger me tirait dessus. Il tenait un pistolet semi-automatique et la baignoire se transforma en une grande cymbale creuse assourdissante. Des éclats d'émail sautèrent, rebondirent sur le mur et retombèrent sur moi en pluie, accompagnés d'éclats de bois et d'une balle perdue encore brûlante. Il continua de charger sans cesser de tirer. Il allait me tuer comme un poisson pris dans un tonneau. Je ne pouvais même pas relever la tête. Ce fut Sarge qui me sauva la vie. Jagger trébucha contre un de ses grands panards inertes, oscilla, et deux balles allèrent se perdre dans le plancher. Je bondis à genoux et fis semblant être le lanceur d'un couteau dans les sept mercenaires. Je propulsai le calibre 45 vers sa tête. L'arme le toucha, mais ne l'arrêta pas. Je sautai maladroitement par-dessus le rebord de la baignoire avec l'intention de me jeter sur lui. Il tira par deux fois sur ma gauche. À peine visible, la silhouette recula, essayant de reprendre l'équilibre tout en se tenant l'oreille, là où le pétard l'avait atteint. Il tira une balle qui me toucha au poignet, une autre qui m'égratigna le cou, puis, miraculeusement, il trébucha une deuxième fois sur le pied de Sarge et tomba en arrière. Ce coup-ci, la balle alla se loger dans le plafond. C'était ma dernière chance. D'un coup de pied, je lui fis sauter le semi-automatique des mains, il eut un bruit mou, d'eau brisée, et d'un autre, je le frappai dans l'autre jambe. Il se plia en deux. Je lui portai le coup de pied suivant à la tête et ses jambes se mirent à pédaler frénétiquement tandis qu'il tombait sur le sol, inconscient. Il était déjà mort.
Voilà. Je note que t'as fait un peu un petit côté Nicky Larson à la voix du méchant. C'est bien. ça rajoute de la couleur.
C'était pas voulu.
Et maintenant, donc, la même scène dans l'adaptation.
Tu sais qui je suis, Willy ? Anémone. Il n'y a plus que toi et moi maintenant. J'ai causé un peu avec ta femme. On s'est super bien entendu, elle et moi. Elle m'a dit ce que je voulais savoir. J'ai pas eu à l'égorger. Croix de bois, croix de fer. Quelqu'un qui ment, ça se sent tout de suite. Tu le sais, ça ? Ouais. Elle m'a dit... qu'après avoir enterré Barnet, Bouton d'Or, t'étais allé voir Rosier. Je t'y ai pas trouvé, alors je me suis dit que Sarge t'avait eu, ou que toi tu l'avais eu. Dans un cas comme dans l'autre. Ça nous ramenait ici. Je pourrais te dire ok, on n'a qu'à partager. 50-50. Et t'aurais pas besoin de poser ta main sur mon cœur pour piger que je te baratine. Alors toi et moi, on va se mettre debout et compter jusqu'à 10. Celui qui gagne empoche le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc voilà, bah, que dire à part ce qu'on a déjà dit, ouais, c'est assez ridicule. Il
très j'ai fait semblant de dire que j'étais mort.
Tu as le bonjour de Sony et Roger.
Il trébuche même deux fois dans la nouvelle.
Ouais, dans la nouvelle, il trébuche deux fois.
Il est vraiment nul.
C'est très très nul.
À se demander aussi comment il le loupe dans la baignoire, parce que je pense qu'une baignoire, ça retient pas une balle. Hein.
Bah, je pense pas. Je pense que la balle traverse direct.
Ouais, c'est, enfin, c'est pas immense, une baignoire, donc quelqu'un qui est dedans, tu peux facilement deviner.
Tu tires des balles à ses contours.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il a pas l'air très doué.
Ouais, c'est ça. C'est... En fait, c'est peut-être juste que les autres sont vraiment très nuls et donc ils le considèrent comme un ouf.
C'est ça.
Mais en réalité, il est nul.
Je pense que c'est ça.
Ouais, le Jagger.
En fait, c'est un peu comme, comme le grand con dans Maman, j'ai raté l'avion qui a peur du petit con parce qu'il pense qu'il est très doué alors qu'en fait, ils sont tous les deux juste très cons.
Oui, c'est juste qu'il y en a un qui l'est encore plus que l'autre, effectivement. Oui.
Voilà, c'est juste ça.
Ou les Dalton, quoi. C'est Joe, mais comme les autres, c'est Jack, William et Avril.
J'avais envie de faire un parallèle avec Maman, j'ai raté l'avion parce que je pense qu'on parle pas assez de Maman, j'ai raté l'avion.
Oui, oui, c'est vrai que j'en parle pas souvent, je peux pas dire l'inverse.
Écoute, Issam, il faut parler des bons films de notre enfance, ou du moins de la mienne. Je ne sais pas si ça a été ton cas.
Si, oui, si, ça, un peu aussi.
C'est pas comme si Chris Columbus continuait à faire des bons films aujourd'hui. Donc, rendons-lui hommage avec ce qu'il a fait avant. Parce que Pixel, mon dieu.
Je l'ai toujours pas vu, Pixel.
Bah, c'est bien, là, ne le vaut pas.
Vu qu'il y a l'autre con, là, j'ai pas envie de le voir. C'est qui le rôle principal? Comment? C'est bien Deadpool, non?
Non, Ryan Reynolds.
Ouais.
Je crois pas que ce soit. Tu confonds pas avec Bad Guys.
Ah, peut-être. Avec, oui.
Non, Good Guys ou Bad Guys, attends.
Bad Guys. Enfin, ou the Nice Guy, un truc du genre.
Non, The Nice Guy, c'est le film de Shane Black, qui lui est très bien.
Oui, ça c'est bien. Même si c'est aussi avec deux cons.
Ouais, Russell Crowe et.
Oh, ils sont tous cons. Donc.
Hollywood, c'est un amas de cons, comme ça, moi.
Oh,
les trous de mémoire infernaux, quoi. Ah, mais cette nouvelle a pompé notre âme. Hein.
Bah, c'est encore pire, c'est Adam Sandler dans Pixel.
Ah oui, c'est vrai, c'est encore pire, du coup. Et dans The Nice Guy, c'est pas Jack Gyllenhaal?
Non, c'est celui de Drive.
Ryan Gosling?
Oui, voilà, c'est ça.
Moi, j'aime bien Ryan Gosling.
Oui, oui, c'est juste qu'il a fait beaucoup de films un peu péteux, qui me gonflent, mais lui, il est plutôt bon acteur, il est pas méchant, c'est plus ce dans quoi il a joué, dans l'ensemble qui... je me dis que c'est très surfait, quoi.
Oui.
Ça se prend bien trop au sérieux, on va dire.
Dans The Nice Guys, ça va.
Oui, voilà,
Les deux sont bons, hein, je trouve. Même Russell Crowe, il est bon, non?
Oui, même Russell Crowe, ce qui arrive pas souvent. Hein.
Je sais que t'as du mal avec Russell Crowe, mais... un acteur, ça dépend des films.
Mais moi aussi, le truc, c'est que je vois pas beaucoup de cas où ça se passe bien, en fait.
Non, mais ton dernier cas que t'as en tête, c'est dans Thor 4, donc forcément...
Ouais, effectivement, mais les autres trucs auxquels j'arrive à penser, c'est Gladiator, que je trouve pas bien.
Et moi, pareil, j'aime pas les...
Robin des Bois, c'est encore pire.
Je l'ai pas vu.
Il était dans Les Trois Prochains Jours, qui était franchement naze. Enfin voilà, je l'ai jamais vu dans des trucs qui m'aient convaincu. Alors c'est peut-être ses choix de carrière du coup qui ne vont pas, mais je trouve que lui-même à chaque fois il est pas fabuleux niveau jeu, à part dans The Nice Guys où effectivement il est drôle.
Bref.
Je crois qu'il y a une autre exception, mais je sais plus laquelle c'est. Donc, voilà.
Alors qu'on rebaptise ce podcast Transition et Parenthèse.
Ah bah ben là, parce que sur la scène je vois pas grand chose à ajouter.
Rien, si ce n'est qu'elle est. Elle est tout autant ridicule dans le roman que dans la que dans l'adaptation.
En plus, il fait sombre, la réalisation est assez agitée, donc c'est pas très clair tout ce qui se passe.
Et puis il y a vraiment le mec qui, genre, t'as l'impression qu'il se réveille, quoi, qu'il se met dans une position. T'as l'impression qu'il le fait tomber volontairement.
Bah, le truc, c'est que tu sens que c'est pas crédible dans la nouvelle, mais dans l'adaptation, ils ont dû le mettre visuellement, donc ça rend encore moins crédible. Tu sens que c'est forcé, en fait.
C'est ça.
Bon, voilà.
C'était pas bien.
Ouais. Et on va pouvoir classer ça.
Eh ben, allons-y. content de passer au classement. Comme d'habitude, je m'occupe du classement des œuvres écrites, tandis que Issam s'occupe des adaptations. Actuellement, le classement des œuvres écrites compte 41 places. Les 5 premières étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et la part des ténèbres. Et les 5 dernières étant... Dans quel sens je vous le fais? Allez, à partir de la 37e position, le dentier classeur, la... Classeur. Le dentier claqueur, la pastorale, l'année du loup-garou, Dr. Sleep et Grand Chauffeur. Quatuor à 5, puisque c'est le titre français, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Où est-ce que c'est?
Ah non, c'est le 5e quart. Quatuor à 5, c'est pour l'adaptation.
Ah, le 5e quart.
Ouais.
Le 5e quart. Déjà, ça peut... Déjà... Fondamentalement, ça va en dessous de la dernière affaire de mai. Ça, c'est clair.
Ouais, ça, c'est évident.
Ça, c'est une évidence, parce qu'on les a comparés toutes les deux. Ça va en dessous de la presseuse, ça va en dessous de quand l'autovirus me cap au nord, ça va en dessous de cours Jimmy cours. C'est tellement anecdotique en même temps. En fait, c'est tellement anecdotique que ça ne peut être que du fin de classement, quoi.
Ouais, ouais, c'est...
C'est vraiment, c'est entre l'année du loup-garou, Dr. Sleep et Grand Chauffeur, quoi.
Oui, ouais, moi j'étais dans cette zone-là. Je l'aurais mis au-dessus de Dr. Sleep, quand même.
Ouais, parce que ça, pour lui, ça dure pas trois plombes, quoi.
Et encore, Dr. Sleep, il y a au moins un bras.
Ouais, voilà.
Ouais, peut-être même en dessous de Dr. Sleep.
Ah oui. Et au moins, ça a pas... Ça n'a pas le revenge porn dégueulasse de Grand Chauffeur.
Oui, c'est ça. C'est ça qui fait que je le mets pas en dessous de Grand Chauffeur.
Bah voilà, hein, entre Dr. Sleep et Grand Chauffeur.
Ouais, allez, 41e place. Donc,
et parce que c'est tellement anecdotique, quoi. C'est anecdotique. C'est ça, en fait, le problème.
Voilà, et donc, pour l'adaptation, nous avons actuellement 52 œuvres classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner, et aux 5 dernières, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et en dernier, Dr. Sleep de Mike Flanagan. Et donc, là, pareil, ça va aller bas, clairement en dessous de Quand l'autovirus met cap au nord de Mimika Gezan, donc, ouais. Qui était en 37e.
Ouais, si on doit comparer d'autres épisodes... De la série, ouais. Ouais.
Et l'autre était pas mal au-dessus, donc clairement... Amené, il est 26e, pour la curiosité. Hein. Et ensuite... Ensuite, j'ai peut-être envie de le mettre... C'est compliqué, hein. Peut-être en dessous des démons du Maïs 4. Parce que les démons du Maïs 4, il y a un ou deux trucs que je trouve rigolos dedans.
Ouais, voilà, ouais. Mais après, Maximum Overdrive, c'est trop chiant, quoi.
Ouais, bah, disons qu'il y a au moins le professionnalisme de l'exécution dans Quatuor A5, qui est là.
Ouais.
Qui est pas ouf, mais qui est là. Qui fait que je le mets là, mais vraiment sans enthousiasme.
Ouais, voilà, ouais. Je suis assez d'accord.
Donc 40... Ah oh bah tiens, 41e place. Aussi.
Ah bah, d'accord, la même place.
Ça te va?
Ça me va. Les deux se répondent.
Mais voilà, on vous le recommande bah, vraiment pas, du coup.
Non, clairement pas.
Même si, voilà, c'est pas honteux. Ça n'a juste pas d'intérêt.
Bah oui, voilà, c'est ça. C'est du déjà vu, mille fois, si ce n'est plus. Et c'est vite oubliable.
Très bien, bah nous, on va laisser ça derrière nous et on se retrouve dans 2 semaines pour parler de The Mangler de Tobe Hooper, adaptation de La Presseuse, une nouvelle dont on a déjà parlé parce que c'est une série sur laquelle on a déjà fait les 2 suites, donc The Mangler Reborn et The Mangler 2.
On les a fait à rebours.
Ouais, 2 chefs-d'œuvre, hein, vous l'avez constaté en voyant que les deux sont dans notre flop 5. Et donc on verra bien
si la série commence sous de meilleurs auspices. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
@ cinéma archiviste pour toi, @ Chris, tiré du 6, Lost Tales, sur Twitter.
Ah, c'est le tiré du 6, je croyais que c'était l'autre, justement. Je croyais que c'était l'underscore.
L'underscore, c'est le tiré du 6, justement, non? Attends, je sais plus.
Non, le tiré du 6, c'est vraiment le tiré.
Ah, alors c'est l'underscore. Donc
ouais, c'est le 8.
Du combien?
8.
Du 8, tiré du 8, underscore. Lost Tales.
Les boomers qui comprennent leur tiré.
Sur Twitter, voilà. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, hein, les liens seront en dessous.
Ouais, il y a des fois des réponses et des avis qui nous sont mis et ça fait plaisir à chaque fois.
Exactement.
Et nous, donc, on se retrouve dans 2 semaines. Le nouveau podcast, on n'a pas encore enregistré le premier épisode, mais on est en pleine préparation, là. Faut juste qu'on résolve un petit souci technique, peut-être, niveau micro, mais on va en discuter. Et n'oubliez pas...
que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut.
Salut.